y a beaucoup de façons de considérer l'acte magique qu'est la photographie. Pour moi, ça a toujours été un acte magique. Vous aimez quelqu'un, par exemple, vous aimez un paysage, vous prenez la photo et vous mettez la personne aimée ou le paysage dans votre poche. Pour toujours, ça c'est fantastique, mais en même temps, la photo n'immortalise pas les gens qui sont dessus, par exemple. On les arrête dans leur course vers le néant, mais en même temps, cette photographie les montre terriblement mortels.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Bonsoir, je vous propose de commencer cette année en bonne compagnie avec les photographies de Denis Roche. Denis Roche que vous venez d'entendre dans l'émission « Surpris par la nuit » sur France Culture. C'était le 1er janvier 2001. Une grande exposition lui était consacrée à la Maison européenne de la photographie à Paris. Le commissaire de cette exposition était Gilles Morat. Gilles Morat, ami fidèle de Denis Roche, par ailleurs directeur du pavillon populaire à Montpellier, dans lequel nous allons entrer pour découvrir l'exposition Photolalie 1964-2010. Gilles Morat est là, avec Françoise Perrault, l'épouse de Denis Roche, qui est présente dans de nombreuses photos, dans de nombreux autoportraits à deux. C'est donc avec mes deux invités que nous allons vous parler de cette force intellectuelle qui s'exprima dans la revue Telle Quelle, puis dans les cahiers de la photographie, puis dans ses livres de poésie, puis au travers de la prose et avec la photographie. Car Denis Roche est photographe, écrivain, éditeur. Il a inventé et dirigé pendant 30 ans la collection Au Seuil, Fiction et compagnie. Il nous a quittés le 2 septembre 2015. Espérons que cette nouvelle année prendra soin de nos tristesses, de nos espoirs et que nous saurons être ensemble pour avancer. Bienvenue dans Regardez voir, merci d'être là. Je souhaite bien sûr une belle année à notre petite équipée, Jean-Michel Montu qui met la musique dans la photographie, Fanny Leroy qui prépare avec moi cette émission, compose la page du site sur franceinter.fr, elle met les photos dont on parle, quelques extraits des beaux textes de Denis Roche, les livres indispensables, le lien pour l'exposition, bref, tout y est. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, surtout Marco qui tweete sous le faux nom de Regardez voir, et mardi sur l'œildelaphotographie.com. Cette rencontre sera en ligne, comme chaque semaine. Marco Mutel est donc à la réalisation, Éric Morin à la technique.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Bonsoir Françoise Perrault.
Bonsoir.
Je vous présente avec un petit texte, vous me reprendrez si ça ne vous va pas. Vous êtes entrée dans l'édition en 1967 après des études de lettres et de sciences politiques. C'est aux éditions Tchou que vous rencontrez Denis Roche, dont vous devenez la compagne puis l'épouse. En 1971, vous allez aux éditions du Seuil, que vous quittez 33 ans plus tard, après en avoir été éditrice et secrétaire générale du service éditorial. Dans le catalogue de l'exposition, qui est édité chez Azan, il est écrit « En 1967, il rencontre Françoise Perrault, qui sera tout au long de son œuvre photographique, à la fois actrice, modèle, rôle et présence ». Manque-t-il un mot, Françoise Perrault ?
Je ne sais pas qui a donné cette définition, si c'est Denis ou si c'est quelqu'un d'autre, mais elle lui convenait, donc elle me convient.
Elle vous convient. Vous regardez Gilles Morat. Bonsoir Gilles Morat.
Bonsoir.
Peut-être est-ce vous qui avez fait cette si jolie définition ?
C'est possible, je ne m'en souviens pas.
Alors vous êtes le directeur artistique du Pavillon Populaire de Montpellier, un établissement dédié à la photographie où il y a toujours de très belles expositions. Vous êtes, on le sait, spécialiste de la photographie américaine, auteur de plusieurs livres qui ont eu notamment des prix Nadar. Et vous avez été le rédacteur en chef de la revue Cahiers de la photographie de 80 à 93, la toute première revue critique. Vous la créez cette revue avec Claude Nory, Bernard Plossu, Jean-Claude Lemagny et Denis Roche. Est-ce là votre rencontre avec Denis Roche ?
Absolument, oui. J'ai proposé à Claude Nory, qui était éditeur et directeur de Contre-Jour, d'accueillir cette revue. Et la première personne que j'ai contactée pour en faire partie, c'était Denis Roche, pour qui, dès mes études de lettres à la faculté de Bordeaux, j'ai éprouvé une très grande admiration. Et j'avais appris qu'il faisait également de la photographie, ce qui était encore plus merveilleux pour moi. Et je lui avais écrit, je m'en souviens, je lui avais proposé de fonder cette revue immédiatement. Il avait répondu, venez me voir, et il avait accepté tout de suite. Et notre rencontre et notre amitié date de ce moment-là, je crois que c'était en septembre 1980.
Qui a posé un premier regard sur son travail, Gilles Morin ? Claude Nori ?
Je crois que c'est... c'est Claude Nori. Je crois que c'est Claude Nori et je pense que c'est par l'intermédiaire de Bernard Plossu que ça a dû se faire.
Oui, je pense que Bernard
et,
était...
je crois que c'est lui qui a fait le lien, comme c'est lui qui a fait le lien entre Claude Nori et moi-même. Et je pense qu'également, il y avait eu le regard d'autres photographes. Je me souviens d'avoir parlé avec... Arnaud Classe, avec Alain Dister. Je crois que déjà, au moment où nous avons fondé le cahier de la photographie, Denis, en tant que photographe, était quelqu'un qui était connu dans le milieu.
Françoise Perrault, vous venez de dire au moment où Denis a commencé à préparer l'exposition avec Gilles Morin. C'est lui qui a organisé avec Gilles Morin, avec vous, Gilles, cette exposition. Il n'a pas pu évidemment la poursuivre. C'est vous, donc, Françoise Perrault, qui avez pris le relais?
C'est-à-dire qu'il sait, dès que Gilles lui a annoncé cette exposition, ça lui a fait très plaisir et ça lui a donné l'occasion de replonger dans l'ensemble de ses contacts et de les regarder peut-être avec un œil différent, parce que de temps en temps, il protestait contre le fait d'avoir à regarder tout le temps les contacts, il trouvait ça fatigant et répétitif. Mais là, tout d'un coup, il a eu un regard neuf, peut-être parce qu'il savait que ça serait sa dernière exposition. Et il a découvert des photos qu'il n'avait jamais pensé ni tirer, ni exposer, mais en particulier des portraits.
Et avec Françoise, Gilles Morin, vous avez poursuivi l'organisation de cette exposition. Vous a-t-elle donné une consigne importante?
Non, c'est une exposition que nous avons commencé curieusement tous les trois ensemble, parce que Denis, c'est vrai, était plutôt affaibli par sa maladie. Je lui avais proposé cette exposition il y a un an et demi. Comme nous avions déjà réalisé ensemble l'exposition de la Maison européenne de la photographie, qui s'appelait L'épreuve du temps et qui était tournée autour de la chronologie, j'avais eu l'idée qui avait beaucoup plu à Denis d'axer cette exposition autour de sa liberté qui était la sienne devant la photographie. Et donc ce regard neuf qu'il a reporté sur ces images était évidemment était nourri de cette proposition-là et a permis de faire une exposition différente.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans sa liberté avec une première photo que vous avez choisie, Gilles Morin ? Une photo qui est légendée ainsi, 25 juin 1990, Belém, Portugal.
Oui, c'est une photo qui est intéressante. Bon, d'abord, elle m'est chère parce que nous étions tous les trois ensemble.
Nous avons passé 1990.
90, oui, ouais. J'avais organisé une exposition sur la photographie française à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne et dans laquelle Denis, évidemment, était incorporé de façon majeure. Et la Fondation avait invité quelques photographes, dont Denis. Françoise était venue. Je me souviens, nous avions passé l'après-midi sur la côte dans un très agréable restaurant. Un retour, nous étions arrêtés devant la cathédrale de Belém qui est dans la banlieue de Lisbonne. Et je me souviens très bien de cette photographie-là. On était tous les trois et le temps était magnifique. On regardait cette façade. Il a posé son appareil par terre et il a fait une photo en contre-plongée qui est admirable. Alors je la décris presque la totalité, disons les 7 dixièmes de l'image sont des motifs architecturaux de la façade. Et il y a une sorte de vide au milieu qui est le ciel. Et tout à fait en bas, à droite, la contre-plongée prend Denis, le visage de Denis par en dessous, avec sa cigarette et sa main, quelque part, qui s'inscrit dans le motif. Et l'ensemble ressemble étrangement à ce que faisaient dans les années 20 Florence Henry, tous ces gens de la nouvelle vision qui ont permis à Denis, dans sa photographie, d'avoir cette exigence formelle qui était... Alors qu'on a pu dire que la photographie qu'il défendait pouvait être tout et n'importe quoi, lui, ses photographies sur le plan formel étaient marquées, nourries par cette tradition-là. Et cette photographie en est une preuve admirable.
Et en même temps, on voit aussi dans cette photographie ce marquage du temps qui lui est propre, où à chaque fois, chaque légende dit l'année, le lieu.
Le jour et parfois même, je crois qu'il y a eu
la chambre d'hôtel.
Ça ne relève pas du tout. Alors ça pourrait être un toc obsessionnel. Mmh. Chez Denis, c'était autre chose. C'était cette idée que la photographie était un marqueur temporel très fort qui permettait effectivement d'évaluer le présent, mais aussi la distance qui s'apparaissait séparée de la fin, et que tout ceci faisait partie de la gravité de la photographie, et que cette gravité-là, comme il le disait, c'était la rencontre justement entre le temps et la beauté.
Et c'est aussi un des nombreux autoportraits qu'a fait Johnny Roche tout au long de sa carrière. On va se retrouver juste après cette nouveauté de Minneapolis sur la playlist de France Inter, Polissa. Regardez voir ce soir avec mes deux invités, Gilles Mora, du pavillon populaire à Montpellier dans lequel se déroule la belle exposition Photo Lali. On va parler du titre de cette exposition tout à l'heure, Photo Lali de Denis Roche, et Françoise Perrault qui est la compagne de Denis Roche. Alors tout à l'heure on l'a évoqué, ces principes d'écrire en légende, le lieu, l'année, quelquefois même la chambre d'hôtel. On va écouter Denis Roche parlait de cette épreuve du temps.
Quand j'ai commencé à exposer ou à publier mes photos, j'avais conscience que je marquais le temps. Chaque fois que toutes mes prises étaient une tentative désespérée d'arrêter chaque fois le temps à un endroit et dans un moment de bonheur ou de plaisir. et qu'évidemment on court derrière, parce que l'instantané, comme son nom l'indique, dans l'instant qui suit, il a disparu. Et j'ai eu conscience, c'est assez vite, puisque par exemple, j'ai toujours légendé les photos en mettant le jour, le mois, l'année, l'endroit exact, le nom du village, de la commune sur laquelle a été faite la photo, le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre. C'est très important pour moi, ça.
Surpris par la nuit, c'était l'émission, bien sûr, d'Alain Weinstein sur France Culture. C'était le 1er janvier 2001. Je me demande, François Perrault, quand vous regardez toutes ces photographies de votre époux, ces marquages du temps dont il parle sont sans doute pour vous aussi peut-être plus importants aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne représentent pas la même chose pour vous.
Il considérait toujours que la date et le lieu, c'était dire j'étais là à ce moment-là. Et en voilà la preuve. Bon, c'est vrai de beaucoup de photographes, évidemment, mais c'était récurrent chez lui. Bien sûr, les regarder me rappellent des moments, des souvenirs, mais pas seulement. C'est aussi, d'abord, j'insiste toujours pour dire que son œuvre n'est pas faite que d'autobiographie et qu'il y a beaucoup d'autres photos formelles ou de nus ou autres qui ne sont pas des photos d'autobiographie. Et puis parce que ce marquage du temps, il n'est qu'une toute petite partie du temps qu'on a passé ensemble. C'est un tout petit espace.
Mais en même temps, toutes ces photographies, on a l'impression qu'elles étaient prises dans des voyages que vous faisiez
ensemble.
Oui,
mais ça, c'est simplement parce que c'est le moment où on avait le temps. C'est le moment où on ne travaillait pas et que la liberté d'aller et venir, la liberté d'avoir le temps, il se trouve que ça se faisait quand on était en vacances, quelque part, mais ce ne sont pas des photos de voyage, jamais.
Absolument, Denis Roche n'a jamais prétendu raconter sa vie avec ses photographies. Gilles Morat, pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça veut dire, Photolalie, de l'exposition au Pavillon Populaire à Montpellier ?
D'abord, le titre a été choisi par Denis.
Il l'a inventé.
Oui, absolument, il l'a inventé.
C'était le titre qu'il avait donné à un tout petit opuscule qu'il avait publié
en 82. Et le suffixe Lali est comme ça évocateur de ses échos, de ses répétitions. Et lui-même en avait donné une brève définition que je vous lis. Il avait dit « J'appelle photo Lali cet écho muet, ce murmure de conversation tue qui surgit entre deux photographies très au-delà du simple vis-à-vis thématique ou graphique. » Et c'est ce dialogue de ces photos, d'un moment à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une forme à l'autre, qui forme le tissu de son œuvre. Donc le titre me paraissait très justement choisi.
Alors si on prenait la photographie du livre publié chez Azan, Françoise Perrault, et si on la regardait. Et on regardera après si la photo qui est à côté forme une photo Lali. Ça va être un petit exercice. Alors Françoise, de quelle photo s'agit-il ?
Alors je me devais de choisir au moins un autoportrait. Donc c'est un autoportrait d'avril 1979, qui n'est pas un des premiers qu'il ait fait, mais qui pour moi est resté marquant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ce n'est pas un autoportrait au retardateur. Denis en a fait beaucoup. Il aimait beaucoup faire ce qu'il appelait les allers-retours dans la chambre blanche, c'est-à-dire sa façon d'entrer dans la photo ou d'en ressortir. Celui-là est beaucoup plus statique. C'est un dispositif de miroir, puisqu'il y a un miroir posé sur le sol. On s'en aperçoit parce qu'on voit nos pieds, son pied nu et mes sandales à moi. Et puis, sur ce miroir est posé un deuxième petit miroir ovale et nos deux visages se reflètent dans ces deux miroirs-là. Mais pour moi, c'est ce que j'appellerais une photo du désœuvrement. Parce qu'en réalité, il l'a faite sûrement un jour de vacances, vu la façon dont on est habillé, moi en blanc, le pied nu. Et je pense qu'il a erré un peu en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ?» D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai regardé les contacts de cette série-là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a commencé par poser le premier miroir par terre, se photographier dedans. Ça n'a rien donné de convaincant. Il a dû aller chercher le deuxième petit. À ce moment-là, il m'a appelé. Et je me souviens très bien de l'ambiance. C'était une ambiance détendue, une ambiance joyeuse. Et donc là, il m'a demandé de regarder le miroir et lui a cherché à capter le deuxième reflet, puisqu'on me voit une fois dans le miroir grand et une fois dans le petit. Et moi, je ne comprenais pas vraiment. Il me disait un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Mais moi, je ne voyais rien dans le miroir. Je voyais probablement le reflet du plafond. Et donc, on voit que les 4-5 photos qui précèdent, il essaye d'approcher le moment où il aura bien ce qu'il veut. Et puis, les deux photos suivantes, ça y est, mon visage a disparu. Et donc, je pense que cette planche de contact, il a dû l'attendre avec beaucoup d'impatience parce qu'il se demandait si l'incertitude de la photo avait donné quelque chose. Et il a dû être très content de voir que sur la série de 5 ou 6, il y en a une qui était la bonne.
Ce qui est très beau, c'est que votre visage dans le petit miroir est à la place de son visage.
Son visage. Et que sa tête est penchée de telle façon qu'il essaye de capter ce visage. Mais c'est en même temps une photo très formelle où on reconnaît beaucoup de ses thèmes à lui, c'est-à-dire le miroir, le reflet, les lignes de fuite, le couple bien sûr, mais elle a beaucoup de choses en elle qui sont au-delà du simple autoportrait.
Et quand il vous appelait de cette façon pour venir participer à une de ses photographies, à cet exercice, vous étiez toujours d'accord ?
Oui, parce que ça durait jamais longtemps. C'était jamais une installation ni quelque chose de pesant. C'était je passais par là, quoi.
Elle est bien sûr dans l'exposition à Montpellier, Gilles Morin, cette photographie.
Bien sûr, je me souviens l'avoir prise également pour la couverture du catalogue du Frac Aquitaine, de la collection que j'avais constituée en 1985. Et c'est cette photo très emblématique de l'acte photographique que j'avais choisi.
Son travail était une réflexion sur l'acte photographique, oui, en général.
Oui, mais comme tout ce que faisait Denis, ce n'était jamais une réflexion élaborieuse et théorique, etc. C'était toujours extrêmement maîtrisé sur le plan intellectuel, mais en même temps très facilement exprimé et très joyeusement fait. C'était la grande différence avec beaucoup d'autres photographes de sa génération.
Je confirme.
J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. J'ai regardé la terre, j'ai tant voyagé, j'ai repris tout à l'envers, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. I just need it to be. I'm gonna make it.
des regards dans la voix de Raphaël sur l'album Somnambule.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Et d'autres regards, bien sûr, sur la photographie ce soir de Denis Roche jusqu'à minuit et sa voix pour dire le silence.
J'aurais aimé écrire un texte sur le silence photographique. Parce que je pense que c'est une caractéristique très précise de la photographie qui est sur un mur, hein, accrochée, encadrée sur un mur. Je pense qu'il n'y a rien de plus silencieux que ça. C'est une question qu'on ne se pose pas à propos de peinture, par exemple. Je ne crois pas qu'on puisse parler du silence pictural, ça ne veut rien dire. Le silence photographique, j'y crois beaucoup. Vous arrêtez le visage de quelqu'un à un point tel, il n'y a plus que son silence qui est là. Je trouve que ça serait bien de faire prendre conscience aux gens que quand ils regardent des photos sur un mur de musée, ils sont devant quelque chose qui ne dit rien.
Gilles Morat, est-ce que quand vous avez des visiteurs dans votre pavillon populaire à Montpellier, vous leur apprenez ce qu'est le silence d'une photographie, qu'une photographie est muette ?
Ouais, question difficile. Je crois qu'il a raison, Denis, en parlant du silence de la photographie. Mais ce silence-là, il n'a rien de pesant. Il est comme ça, comme une évidence de ce qui est là et qui est absent en même temps. Et c'est vrai qu'on a rarement écrit sur ce détail qui définit aussi bien la photographie.
Mais je crois qu'elle n'est pas muette.
Non, Françoise Perron.
Elle parle, mais elle n'est pas muette. Ce n'est pas un silence absent. C'est un silence qui l'enrobe.
Et dans le livre « La photographie est interminable », c'est un livre d'entretien que vous avez fait, Gilles Morin, avec Denis Roche, aux éditions du Seuil, évidemment. Il dit aussi que ce silence vient en partie du noir et blanc. Alors là, moi, ça me pose plein de questions. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais c'est un sujet qui a depuis, je dirais, les 60-70 ans, été au cœur des esthétiques de la photographie. L'esthétique du noir et blanc, qui met en avant des connotations que la photographie en couleur n'a pas, parce qu'elle donne des informations qui brouillent tout. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Denis, je pense, n'a jamais fait, ou ça, il a dû faire, comme tout le monde, de temps en temps, des photos en couleur. Et c'est vraiment un point important. La photographie en noir et blanc n'est pas le signe d'un passéisme, c'est le signe d'un choix devant l'image photographique.
Oui, en plus, lui, Denis Roche, travaillait avec ses noirs et blancs, ses jeux de lumière, ses reflets dans les vitres, les terrasses, les miroirs. Donc le noir et blanc est encore plus important. Tirait-il lui-même ses photographies, Denis Roche ?
Non,
Françoise Perrault ?
Non, jamais.
Ça ne l'intéressait
jamais.
Pas ?
Il ne se sentait pas technicien, il ne se sentait pas à la hauteur et il s'entendait très bien avec... un ou deux tireurs et finalement avec Guillaume Genest qui a assuré l'ensemble des tirages et il s'en remettait totalement aux autres pour le faire. C'était pas son boulot.
Y a-t-il un sens de lecture de l'exposition, Gilles Morat ?
À Montpellier, non. On avait donné ce sens de lecture à la Maison européenne de la photographie et au musée de Chalon-sur-Saône qui avait repris l'exposition. C'était la chronologie. Là, nous avions décidé avec Denis de ne pas tenir compte de la chronologie, de ne pas l'enfermer dans la chronologie. Donc, le sens de lecture, non, il y a des regroupements.
Je dirais un peu plus que ça quand même. Il y a les deux, trois premières salles, petites salles, sont un peu un résumé de l'ensemble de ce qu'il choisissait de photographier, à des époques très différentes, comme une anthologie, si vous voulez. Après, on passe dans une salle qui est vraiment consacrée à l'Égypte parce que c'est là qu'il avait fait toute une série de portraits, de reflets. Et ensuite, dans la très grande salle, Gilles a fait un accrochage que, pour ma part, je trouve remarquable parce que ça n'est pas thématique et pourtant, ce sont des rapprochements qui justifient tout à fait le titre de photo Lali. C'est-à-dire qu'il y a quatre groupes de photos qui se parlent, ne sont pas répétitives, mais ont quelque chose à voir les unes avec les autres.
Et dans ces groupes de photos, il y a par exemple les nus, Gilles Morat. Est-ce bien cela ?
Oui.
Je ne me trompe pas de salle, Françoise.
Non, absolument.
Il y a tout un mur qui est consacré aux nus, qui était un des thèmes de prédilection de Denis, pour des raisons qui sont des raisons formelles, mais aussi des raisons sensuelles. Je veux dire, un nu, c'est toujours... différent d'une nature morte ou d'un paysage, c'est-à-dire il y a un rapport au corps de la femme qui est évident. Mais dans le nu, il excellait. Et c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il est le plus proche de gens comme Florence Henry, etc., qui ont vu dans le corps autre chose qu'une anatomie, mais un réservoir insoupçonnable de forme.
Il y a une phrase dans le livre que vous avez fait avec lui. J'ai vu, c'est « le nu, c'est une forme ». Pour lui, c'était ça.
Et on va justement en prendre une photo de nu, puisque c'est celle que vous avez choisie. Gilles Morat, 10 avril 1989, Tobago.
Alors, c'est pas exactement un nu, parce que...
Oui, c'est vrai que ça n'est pas exactement un nu.
C'est la sensualité d'un nu. En fait, c'est une des photos de nu, peut-être les plus sensuelles, qui est faite de nu, parce que c'est pas vraiment un nu.
Vous faites l'amour, je dirais,
c'est plus formel.
C'est une photographie qui est très formelle, dans laquelle on voit très bien comment sont mis sur le même plan à la fois un bras et à la fois un pli de serviette. Serviette éponge, ce qui encore une fois rapproche Denis de la nouvelle vision. Et là, vous avez une femme qui est assise certainement sur une chaise longue ou un siège quelconque sur une plage. On aperçoit quelque part au fond la mer. Hein. Et ces formes-là sont à la fois explicites, le bras esquissé, la courbe du sein sous le maillot, et vous avez encore une fois le pli de la serviette qui est la forme clé autour de laquelle s'articule tout le reste du corps.
C'est-à-dire que c'est un c'est pas très joli, je vais employer le mot morceau. C'est un morceau de corps, mais ça n'est pas joli du tout, alors que la photo est très belle.
Oui,
Je reconnais qu'elle n'est pas facile à lire, parce que moi je ne reconnais pas toujours justement, ce que vous dites, les différents morceaux de la photo, mais elle est, pour moi, elle est abstraite.
Étiez-vous toujours le modèle, Françoise Perrault ?
Pas toujours.
Pour les nus ?
Non,
pas toujours. Et cette photo, elle est justement...
Cette photo, c'est en effet moi, puisqu'elle est prise à Tobago pendant un voyage là-bas, qui était un voyage étrange, puisque Denis était revenu sur l'endroit où il avait passé toute une partie de son enfance. Donc c'était un voyage à la fois géographique, dans l'espace, et un voyage surtout dans le temps. Et ça correspondait bien à son envie de photo à ce moment-là. Mais donc cette photo-là, elle est vraiment abstraite.
Gilles Morat, justement, parlons de photo Lali, si on peut le faire avec le catalogue chez Azan, qui est là ouvert devant nous. L'image à côté de cette photo de nu ou de demi-nu, qu'est-ce que c'est ?
C'est
étonnant, la correspondance de ces deux photographies.
Oui, c'est l'image d'une déesse hindoue, hein, qui est sur un pilier et qui a la même évocation sensuelle, hein, de plénitude féminine, qui est déjà présente dans la photographie de Denis Roche. Je vais dire deux mots quand même sur l'œuvre de Denis Roche. Ce qui me frappe au pavillon populaire, c'est qu'elle est acceptée comme elle est. C'est-à-dire que je vois les gens qui entrent, je lis les commentaires, ce sont des gens qui sont persuadés qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la prise de vue, mais qui est quelqu'un qui utilise la prise de vue photographique comme il faut le faire, c'est-à-dire pour la liberté qu'elle propose. Et cet accueil est véritablement ressenti tel que j'osais l'espérer pour l'exposition.
Une exposition éclatante, joyeuse. Signalons quand même un détail très important, c'est qu'au pavillon populaire de Montpellier, l'entrée est libre, n'est-ce pas ?
Mais l'entrée est gratuite, oui, choix municipal.
inutile de le présenter, il s'appelle Moon Martin, Bad News.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Gilles Morat, Françoise Perrault sont mes invités ce soir pour parler de l'œuvre de Denis Roche. Vous pouvez voir les photographies en ce moment à Montpellier. Gilles Morat, Denis Roche ne travaillait jamais par série.
Non, je crois qu'il rassemblait des choses après les avoir prises. Oui. Mais d'après Françoise
Perrault... C'était des séries de hasard. Ouais, la première photo n'induisait pas qu'il y en aurait d'autres.
Et puis... Voilà. Et pourtant, l'histoire a fait que...
De temps en temps.
Vous allez écouter sa voix, puisqu'en 2007, dans l'émission de Jean Dève sur France Culture, Denis Roche raconte l'histoire de quatre photos qui s'appellent Le Pont de Montvert. Quatre dates, 71, 84, 95, 2005. Ces photos sont évidemment dans l'exposition.
Donc un jour, en 71, je passais là avec Françoise et on faisait des photos, comme font les couples amoureux en voyage, et je les photographiais assises sur un petit muret qui surplombe le cimetière du village. Voilà. Rien d'autre n'était prévu que ça. Or, il s'est trouvé que en 84, le hasard nous fait repasser par là, et je dis à Françoise, tiens, tu te souviens, en 71, on avait fait une photo, là, on va refaire la même pour s'amuser, quoi. La première photo, c'était une photo sentimentale, disons. La deuxième, c'était pour jouer. En 95, on y repasse, on refait la même photo, même pose, même cadrage, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai intégré ces trois photos dans quelques expositions que je faisais, et je pensais, dans cette suite de photos, photographier le passage du temps, c'est-à-dire le vieillissement de Françoise, par exemple. Et je m'aperçois que finalement, ce que j'ai photographié, c'est le changement d'apparence du cimetière. Le cimetière vit, il est vivant. Et effectivement, entre les trois photos, le cimetière avait beaucoup changé d'aspect. D'anciennes tombes avaient disparu, de nouvelles tombes étaient apparues, de nouvelles stèles. Une maison s'était construite dans le cadrage, qui était toujours le même, mais qui à l'origine ne comportait pas de maison, etc. Donc j'ai dit voilà. Finalement, le sujet de cette série est devenu c'est le cimetière qui se transforme. Et alors ça m'a beaucoup troublé au point qu'on est retourné une quatrième fois faire la photo, parce que du coup, je voulais reprendre la main, si je puis dire. Je voulais reprendre la maîtrise de la situation qui en somme m'avait échappé. Et donc en 2005, on y est retourné, on a refait une photo et un léger changement de position de Françoise qui a fait passer ses deux jambes du côté du mur surplombant le cimetière, alors que sur les trois précédentes images, elle était plutôt perpendiculaire à la mort. Et là, j'ai eu le sentiment que la série était close, que ça allait. J'avais repris la main.
J'avais repris la main. Denis Roche qui raconte cette série, finalement, c'est une série de photographies du pont de Montvert, 34 ans, pour clore un sujet, mais il y a eu d'autres exemples de photographies prises comme ça à répétition dans le même lieu, par exemple en Égypte. Dans l'exposition, on voit aussi ces tirages.
Oui, on est retourné plusieurs fois en Égypte et il y avait deux éléments qui ne changeaient pas, c'est les pyramides et le sphinx, et la Sphinx House, c'est-à-dire l'espèce de bar qui était devant, je ne sais pas s'il existe toujours, mais qui était devant le sphinx, et dans lequel Denis s'est mis à tournant le dos au monument, à le voir en reflet, et en même temps qu'il voyait le reflet dans cette grande vitre, il voyait en même temps son ombre découper ce qui était contenu dans la salle même du restaurant en question. Et il a fait énormément de photos de ces reflets-là à des moments... On est retourné 4 ou 5 fois en Égypte et je pense que chaque fois, on est retourné voir si, surtout avec beaucoup d'inquiétude, voir si, non pas si le sphinx était toujours là, mais voir si la Sphinx House était toujours là.
Gilles Morat, ces photographies-là sur ce muret, ce pont qui était dans la voie là, de Denis Roche, elles semblent... Vous laissez rêveur. Vous êtes rêveur depuis le début de notre rencontre.
Non, c'est en pensant à ce qui m'a toujours séduit dans la photographie de Denis, c'est qu'il touchait du doigt à l'importance de la photographie, comme il touchait du doigt l'importance de la littérature, c'est-à-dire que la photographie, ça peut être cet amusement quotidien, ça peut être aussi ce travail pour galerie, pour institution, ça peut être ce travail sur le réel, le reportage, etc. Mais lui, ce qu'il comprenait, c'est que la photographie, c'était un fonctionnement important pour gérer un certain nombre de problèmes qui étaient les siens.
C'était un moyen.
C'était un moyen. La photographie lui permettait d'accéder peut-être plus facilement ou avec plus de bonheur, d'instantanéité à ces thèmes qui étaient chers, qui étaient la présence, l'absence, la disparition, la forme, la mort. Et l'importance de l'acte photographique chez Denis Roche, elle est là. Il y en a peu dans l'histoire de la photographie qui ont compris ça. Il y en a 3 ou 4, pas davantage. Hein. Ça paraît peut-être exorbitant ce que je dis, mais la force de Denis Roche, elle est là. Et je pense que les gens qui voient cette exposition comprennent implicitement que c'est une exposition qui est importante pour la photographie. Et c'est ainsi que nous l'avons voulu au Pavillon Populaire Montpellier avec Françoise et lui-même.
Merci Françoise Perrault, merci Gilles Morat pour cette rencontre ce soir. Je voudrais vous signaler que l'exposition, évidemment, au Pavillon Populaire de Montpellier est jusqu'au 14 février, l'entrée est libre. Le catalogue de Denis Roche Photolalie 1964-2010 est édité chez Azan. Un autre livre, un livre d'entretien que vous menez, Gilles Morat, avec Denis Roche, aux éditions du Seuil, La photographie est interminable. Et puis, les éditions Azan qui rééditent Le boîtier de mélancolie, La photographie en 100 photographies de Denis Roche. Le livre est sorti en 99 et il est actuellement réédité. Merci, au revoir. Je vous retrouve dimanche prochain à 23h avec grand plaisir. L'année commence en photographie et se poursuivra ainsi avec tous les photographes qui comptent, qui émergent, qui exposent, qui font des livres, qui travaillent ou simplement qu'on peut regarder dans leur site où on peut aller chercher des pépites. Je vous souhaite du boulot pour 2016. D'ici là, eh bien, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, Regardez Voir, Twitter et bien sûr, Regardez Voir avec franceinter.fr. Vos messages sont les bienvenus.